Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Vous serez observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé, humilié, déshumanisé. 200 000 francs la télé.
Un matin.
Vous êtes bien à l'écoute de Papillon et voilà, cette émission, elle sera particulière puisqu'elle se fait en collaboration avec le collectif des sans-papiers Saint-Étienne et en partant du fait que même si les discours officiels nient cette réalité, les personnes sans-papiers sont considérées comme illégales et du coup sont confrontées de plein fouet à la justice et à l'enfermement. Et on est toujours dans cette logique dont on a parlé souvent, d'une prison pour chacun, une prison pour les étrangers, une prison pour les récidivistes, une prison pour les mineurs, etc. Et dans Papillon, on a souvent dénoncé ces lois, fait part des luttes et relayé des témoignages. Et notre priorité, c'est toujours de relayer des paroles directes. Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée de faire une émission ensemble, eh ben, on a vraiment tous eu envie que ça puisse se concrétiser. Plus particulièrement, cette émission, elle parlera des relations aux avocats, même si un cadre un peu plus général sera posé, parce qu'on parlera aussi du droit des étrangers. Voilà. Ce thème, il est transversal, en fait, à tous ceux qui ont affaire à la justice. Mais pour cette émission, on a décidé de parler des relations aux avocats pour les étrangers qui sont confrontés de fait à la justice et pour la raison principale que c'est déjà super complexe. On a eu envie tous ensemble de parler des relations aux avocats, notamment parce que quand on est étranger et qu'on se retrouve sans papier, eh ben, le droit est hyper complexe, que les lois sont de plus en plus restrictives, répressives, qu'il y a tout ce qui peut concerner la politique du chiffre, et aussi le fait qu'il y a tout le temps des nouvelles lois, enfin, un peu de manière extérieure, c'est ce qu'on se dit. Et qu'il y a aussi des procédures qui sont multiples. On en parlera un peu plus loin, mais voilà, quelqu'un qui se retrouve sans papier peut être confronté à 7, 8, 9 procédures de manière presque simultanée. Et c'est hyper difficile de s'y retrouver. Et du coup, le recours à un avocat est pour plein de choses obligatoire. Et en plus, quand on est perdu, et ben, le fait de voir un avocat peut paraître essentiel. Donc voilà, en fait, on peut contester les lois qui régissent la circulation, etc. Mais cette émission, elle sera plus pratique. Et ça sera surtout autour de deux axes, et comment ça devrait se passer et comment ça se passe réellement, avec des témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, cette émission, elle sera un peu sous le mode de conseil, mais aussi des conseils qui sont attachés à des pratiques qui peuvent paraître limites. Du coup, ce n'est pas du tout l'idée d'attaquer individuellement tel ou tel avocat, mais juste tenir compte de qu'est-ce qui peut se passer réellement, en se disant juste que les avocats font partie d'un système, mais comme tout milieu professionnel, comme peut être un travailleur social, comme peut être un médecin, et que du coup, il y a des biais qui peuvent apparaître par rapport à ce système-là, des trucs tout bêtes qui peuvent être quand c'est une question de retourner dans un pays où on ne peut pas retourner, eh ben, on n'est pas forcément sur l'optique de parler d'argent ou on a envie d'autre chose qu'une relation professionnelle régie par ça. Donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est plutôt pointer ce qui ne va pas pour mieux se défendre. Et du coup, aujourd'hui, on accueille deux membres du collectif des sans-papiers de Saint-Étienne et une personne qui est avocate. Voilà. Et avant tout ça, on va commencer par quelques brèves.
Ouais. Donc on va commencer par la suite de l'épisode en fait de Corba. On en avait parlé la dernière émission. En fait, il y a eu deux mouvements de protestation à Corba, deux dimanches de suite, donc le 22 novembre et le 29 novembre, où il y a eu un refus collectif deux semaines d'affilée de remonter en promenade pour des revendications diverses, et notamment parce que là-bas, c'est la prison du futur. Mais la prison du futur, c'est quand même la merde, comme on vous en a parlé la dernière fois. Donc du coup, en fait, les matons s'attendaient, les syndicats de matons, s'attendaient à que le mouvement soit reconduit le dimanche d'après. Il se trouve que ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il y a eu une centaine dans les jours qui ont suivi, donc le deuxième dimanche de protestation, il y a une centaine de transferts de détenus, notamment dans les prisons, les prisons les plus proches, hein, Saint-Quentin-Falavier en Isère et Villefranche-sur-Saône au-dessus de Lyon, quoi. Donc voilà, alors après, après c'est toujours les mêmes méthodes hein, qu'on nous sort, deux mouvements, un transfert d'une centaine de détenus. D'après les témoignages qu'on a réussi à avoir de proches des détenus et que des détenus eux-mêmes ont laissé entendre au parloir qu'il y aurait eu une intervention des IRIS, une occupation de la prison par les IRIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité pendant plusieurs jours à l'intérieur de la prison de Corba, avec plutôt des bruits assez étranges de tabassage de détenus, soi-disant plutôt au hasard, pour faire taire un peu les quelques récalcitrants qu'il y aurait. Donc ça, c'est les anecdotes qu'on a eues au parloir, et ça s'est passé à Corba, la prison du futur. Donc après, du coup, on va enchaîner sur la brève. Vas-y, Marc.
Désolé, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On est un peu en rate de micro. Laisse-moi la place. Alors, nous, on va enchaîner avec sur la Talaudière. Donc, c'est un communiqué qui a été fait par l'OIP, l'Observatoire international des prisons. Ce communiqué, il a été fait le 21 décembre 2009. Et donc, je vais vous le lire. Donc, en fait, c'est sur la Talaudière, les détenus toujours privés de moyens d'alerte en cas d'urgence la nuit. À ce jour, aucun dispositif d'alerte efficace n'a été mis en place pour permettre aux personnes détenues au quartier homme de la maison d'arrêt de la Talaudière d'avertir le personnel de surveillance en cas de situation d'urgence survenant la nuit. Donc là, c'est un peu un truc de barge. Donc l'OIP a contacté le service médical et celui-ci a confirmé que la seule solution offerte aux détenus pour obtenir les secours des surveillants la nuit est le mirador. Donc en cas de problème, les détenus doivent faire du bruit et crier par la fenêtre pour attirer l'attention du surveillant au poste mirador, qui lui est situé sur le mur d'enceinte, afin que le surveillant dans le mirador contacte ses collègues à l'intérieur par téléphone. Donc le 7 juillet 2009, le tribunal administratif de Lyon avait pourtant condamné l'État au motif que l'absence d'équipement des cellules d'un dispositif d'appel d'urgence des surveillants de nature à mettre en danger la vie des détenus est constitutive d'une faute. Appelé à se prononcer sur la responsabilité de l'État dans le décès d'un homme détenu à la maison d'arrêt de la Talaudière en octobre 2004, donc ça on en avait parlé, le tribunal a considéré que le caractère rudimentaire et aléatoire du système d'alerte ne pouvait permettre à un malade affaibli d'être secouru au cours de la nuit. Décédé des suites d'un ulcère gastrique, l'intéressé avait souffert durant toute la nuit précédant sa mort. Le fait qu'il n'ait plus été en mesure d'alerter le personnel pénitentiaire a empêché sa prise en charge en urgence dans un service hospitalier et, par la suite, lui a fait perdre une chance de survie. Donc en octobre 2007, il y a une mission d'inspection sanitaire qui est allée faire un petit tour à la Talaudière. Donc ils ont confirmé qu'effectivement, les détenus, s'ils voulaient avertir le personnel la nuit, ils étaient obligés de faire du vacarme. Et dans son rapport, elle a demandé que des solutions soient activement recherchées et que cette situation soit finie dans les plus brefs délais. Donc là, la situation qui se passe à la Talaudière, elle est en, elle n'est pas en accord avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les règles européennes du Conseil de l'Europe. Alors l'OIP a téléphoné à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon le 16 décembre pour demander qu'est-ce qui se passait. Alors selon l'administration pénitentiaire, ça serait une priorité, mais le gros problème c'est que ils n'ont pas les budgets pour le faire et que, comme toujours, c'est toujours des questions de financement, de demande et tout ça, quoi. Donc là, apparemment, à la Talaudière, il y aurait un budget qui aurait été débloqué pour l'année 2010. Mais bon, on voit que, comme d'habitude, la santé et le respect de la personne des détenus, ça passe toujours après les mesures de sécurité, avant des... Oui, pour éviter qu'ils s'évadent ou choses comme ça, avant des dispositifs d'urgence, comme ça devrait être le cas, et chose normale, quoi. Donc voilà, donc on espère que ça sera mis en place assez vite.
Bon, pour conclure sur les brèves, j'ai déjà parlé en fait de la dernière fois des différents événements qui avaient secoué le CRA de Vincennes, donc le centre de rétention administrative. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'avais parlé des 10 personnes inculpées en fait suite à cet incendie. Donc elles passent en procès. J'avais rappelé, j'avais pas tout à fait les dates. Maintenant, elles sont tombées. Donc, ces 10 personnes passent le 25, 26, 27 janvier 2010 à la 16e chambre 1. Il faut bien rappeler, parce qu'il y a plusieurs, il y a une et deux salles. La 16e chambre 1 du tribunal de grande instance de Paris. Et elles passent à 1h30. Donc, il y a un appel à soutien, qu'il soit financier, je vais rappeler comment, soit d'être présente nombreux et nombreuses, donc devant le TGI à 1h30. Bon, je l'ai dit, je ne vais pas rappeler les faits, mais il y a quand même, je suis tombé donc sur Internet, pour ceux qui ont la possibilité de pouvoir consulter Internet, je suis tombé sur une émission du 22 décembre qui était passée sur Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio associative aussi sur Paris, et je pense que c'était l'émission Singulier au Pluriel, je ne sais pas si c'est l'émission du collectif de RSF Paris, peut-être, et donc en fait, cette émission revenait sur... Il y avait deux invités donc, qui étaient deux personnes du comité de soutien des inculpés de Vincennes qui témoignaient. Et donc ça revenait justement sur les événements, l'incarcération, les conditions de détention de ces personnes et l'instruction à charge qui avait été menée contre elles. Et donc elle est possible d'être... Enfin, on a la possibilité de l'écouter, donc l'émission... par le biais d'un blog. Donc, je vais rappeler ce blog. Donc, c'est http://audioblog.arteradio.com/singulier/ Et voilà, et tout singulier au pluriel, c'est tout attaché. Donc, il vaut le coup. Il est super intéressant à écouter. Il dure à peu près une cinquantaine de minutes. Sinon, on peut soutenir ces personnes financièrement. Donc il y a toujours, je pense, possibilité d'avoir le bouquin qu'on vous avait parlé qui s'appelle « Feu au centre de rétention ». Donc je pense qu'il est aux éditions Libertalia, c'est ça. Je pense qu'il y a possibilité encore de pouvoir le trouver. Et sinon, il y a possibilité d'envoyer des chèques à l'ordre du CICP Vincennes. Et c'est envoyé au CICP Vincennes qui se situe 21 Terre, rue Voltaire, 15 011 Paris. Voilà. En parallèle du procès, évidemment, le fric est quand même le nerf de la guerre. Et donc, il y a une semaine de solidarité qui s'installe. Donc, elle aura lieu du 16 au 24 janvier. Elle part du collectif parisien. Donc, il n'y a pas un site exact pour trouver la programmation complète. Mais en gros, à Paris, il y aura des débats, des projections autour des luttes dans les CRA. À Lyon, il y a une présentation, discussion et projection autour des luttes aussi dans les CRA. Là, j'ai la date. Ça aura lieu le samedi 9 janvier à 15h. C'est à l'atelier des Canulars et ça se situe 91 rue Montesquieu, Lyon 7e. Et donc, il y aura des membres du collectif de solidarité avec les inculpés de Vincennes qui seront présents. Et sinon, à Saint-Étienne, ils veulent sûrement se tramer aussi quelque chose en soutien. Je n'ai pas les dates encore. Ça sera aux alentours peut-être en même temps que le procès, 25, 26.
Peut-être un peu avant, 23, 24.
On pensait plus, essayer d'organiser quelque chose autour du 23, 24. Mmh. Oui. Donc le vendredi ou le samedi, ça sera confirmé assez vite, je pense, d'ici, alors probablement cette semaine, le temps d'organiser un peu les choses. Et à partir de la semaine prochaine, je pense qu'il y aura un fly qui tournera avec des infos un peu plus précises.
Et pour ceux qui ont Internet, l'info sera de toute façon sur le site Internet du numéro 0.
Oui. Et en même temps, de toute façon, le plus important pour ceux qui peuvent monter sur Paris, donc c'est d'être présent au tribunal. Donc je le répète, c'est le 25, 26 et 27 janvier à Paris. Voilà. Pour moi, c'est fini. Au niveau des brèves aussi, je crois.
Oui, et je crois qu'on va s'écouter un petit morceau de musique. Et si mon souvenir est bon, ça devrait être La Rumeur.
Bien.
Qu'as-tu à me dire de positif sur la France et son passé de colon? Autant pisser dans un violon. Ne pense pas émotif sur la question, en oubliant de dire merci pour l'abolition. Délicate attention, j'ai dû laisser mon histoire dans le noir, à la gloire de l'homme et sa furie, de sa barbarie. Entre carnage et tuerie, il n'y avait pas que l'or et le curie. Peux-tu entendre la douleur murmurer, qu'elle ne se laissera pas emmurer dans l'oubli, jamais à l'abri. Tellement négro qu'on déjà viré au gris, allez voir plier aux caprices d'une patrie qui nous a laissé tellement de cicatrices. Que veux-tu que je retienne de cette haine des chaînes et de tout ce qu'ils ont violemment injecté dans mes gènes, depuis le vol organisé qui s'opère sur nos terres, où ont poussé les palaces, les pistes d'hélicoptères. On me demandera de me taire avec pour seul critère la servitude héréditaire, je te jure. Ils ont greffé le nègre à la misère, du fouet du propriétaire au fusil du militaire. Qu'as-tu à me dire si ce n'est qu'ils savent mentir sur des années entières de travail pour nous anéantir. Pire encore, pour qu'on oublie les massacres, qu'on en perde son créole et se cherche des reflets nacres. Putain de simulacre, m'évoque la triste époque des premiers viols et des premiers mulâtres. Le mépris n'allant pas sans, c'était le sucre au prix du sang. 2 millions d'hommes embrassant la mort en passant. Qu'as-tu à dire à ces corps pris pour chair à canon? Assez d'années de la terre, chère à France Fanon. Du champ de coton au ghetto, à fond de cale du bateau. Depuis le temps qu'on nous enfonce la même lame de couteau. Au grand regret du temps béni des colonies, de leur putain d'hégémonie sur mon ethnie. Garder la mainmise sur nos sols, dépendance et dictature. Ce n'est pas qu'une mauvaise lecture, mais est-ce vraiment écrit pour nous enseigner l'essentiel? Pour que chaque plaie s'ouvre et vienne tacher leur ciel, pour nous reconstruire ou pour nous maintenir dans le chaos, voire nous reconduire à la frontière et puis ciao. C'est ma nature morte, mes douleurs fortes, qui de Guadeloupe à Gorée se glissent sous leurs portes. Nature morte et douleur forte, nature morte et douleur forte. C'est ma nature morte, mes douleurs fortes, qui de Guadeloupe à Gorée se glissent sous leurs portes. Nature morte et douleur forte, nature morte et douleur forte.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5. Et du coup, maintenant, on va parler un peu des relations aux avocats quand on est dans la situation d'être sans papier. Et d'abord, on se disait que ça serait peut-être pas mal d'essayer de poser une sorte de cadre un peu général. Quelle procédure comment un peu ça se passe et d'essayer de poser un peu les jalons pour dire les moments où on a besoin d'un avocat et les moments où finalement... voilà. Donc je vais laisser la parole à quelqu'un qui est membre du collectif Sans Papier.
Oui, on est membre du collectif Sans Papier, donc il y a Saint-Étienne depuis un peu plus d'une année. D'abord, juste avant de répondre à la question que tu viens de poser, Laetitia, repréciser que aussi pourquoi notre démarche d'avoir collaboré avec Papillon, vite fait, dire qu'effectivement on considère, mais tu l'as très bien dit à l'introduction, que le fait qu'on enferme dans un centre de rétention ou une prison, où c'est la même chose, on est dans une logique où on décide un peu de... de, comment dire, d'isoler certaines catégories de population sur lesquelles on va un petit peu, par la voie judiciaire, appliquer des lois sur lesquelles, bon, évidemment, on est archi pas d'accord et avec des conséquences qui sont extrêmement graves puisqu'elles se retrouvent donc, dans des lieux d'enfermement et, pour les pires des situations, donc expulsées dans leur pays. Alors que, comme on le verra tout à l'heure, parce qu'on a un autre camarade du collectif qui sera là, si elles viennent en France, c'est qu'elles ont quand même des bonnes raisons de le faire. Et sinon, donc, pour en venir plus précisément à la question que tu viens de poser, Laetitia, donc, on a décidé de parler des avocats parce que la question des avocats, c'est une question qui est cruciale dans le parcours, dans l'histoire des personnes étrangères sans papier. Puisqu'on va le voir tout au long de l'émission, il y a tout un tas de procédures dans lesquelles doivent s'inscrire ces personnes si elles veulent au mieux s'inscrire dans une forme de légalité, c'est-à-dire ni plus ni moins avoir des papiers. Et tu l'as dit ça aussi tout à l'heure, il nous semble que dans ce processus-là, l'avocat, il peut être soit, j'allais dire, un allié. Alors un allié de la personne, le terme n'est pas choisi de manière hasardeuse, hein, c'est allié dans le sens où soutenir la personne juridiquement, mais pas que, il nous semble. Soit effectivement, il nous semble que parfois, les avocats ne jouent pas toujours le jeu d'être comme ça accessible aux personnes sans papier, mais on y reviendra. Pour poser un petit peu le cadre général, ce qui nous a paru intéressant, c'est peut-être d'introduire en expliquant un peu toutes les situations où la personne qui va devenir en fait sans papier va se retrouver comme ça confrontée à la juridiction et donc avoir recours à un avocat. Donc en prenant l'exemple de la deuxième personne qui est à mes côtés, qui fait partie du collectif et qui a subi un petit peu tous les carcans de la justice, quoi, qui s'est retrouvé à un moment donné sans papier, puis en rétention, puis en garde à vue, puis etc., etc. Mais je vous laisserai expliquer sa situation. En fait, si on prend le parcours un peu type d'une personne qui vient d'un pays dans lequel il y a des conflits, notamment pour ce qui est de Saint-Étienne, des personnes de nationalité congolaise ou angolaise, ou des personnes qui viennent des pays de l'Est, hein, des anciennes républiques du RSS, ces personnes donc arrivent et demandent ce qu'on appelle donc l'asile, c'est-à-dire qu'ils viennent demander une protection de la France, puisque la France, elle a signé ce qu'on appelle la Convention de Genève. Donc logiquement, juridiquement, la France, elle donne accès à ces personnes à une protection juridique, une protection morale, etc. Donc quand la personne introduit cette demande d'asile, il se trouve qu'avec cette demande d'asile qui va être traitée à Paris, dans un office qu'on appelle Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande d'asile, elle va être assortie ou pas, et vous n'hésitez pas à intervenir si je ne suis pas claire,
bien sûr,
d'un droit ou pas au séjour. C'est-à-dire qu'il y a une autorisation de séjour provisoire le temps de la procédure d'asile. Et il se trouvait à Saint-Étienne, et l'avocat qui est présent à nos côtés pourra le confirmer, que ce n'est pas un droit systématique. Ceci dit, c'est balisé par la loi aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien poser une demande d'asile, mais dire à la personne, non, on vous refuse le séjour. Pour X ou X raisons, vous êtes passé par un pays européen, votre demande, elle est frauduleuse, etc. Ça peut déjà être un premier motif pour lequel on sollicite un avocat. Et encore une fois, l'avocat qui est Maître Cuche, qui est avec nous aujourd'hui, on l'a beaucoup sollicité sur ce type d'affaires. Donc des refus de séjour parce qu'on considérait que la demande d'asile n'était pas conforme au droit. Donc ça, ça peut être un premier motif. Bon. La personne continue, sa demande d'asile, elle est traitée, donc je disais, au niveau de l'OFPRA, l'office qui se trouve à Paris, elle a un refus, ce qui est le cas, je prends le cas des personnes de nationalité congolaise, qui est le cas, je crois, de un peu plus de 80%, je crois, de motifs de refus, vous confirmez. Ce qui veut dire qu'il reste à peu près 15, 16, 17% de personnes qui ont un accord. Donc pour les 80% restants, ça veut dire un refus de l'asile, donc un recours. Donc un recours qui s'effectue dans ce qu'on appelle la Commission nationale du droit d'asile, la CNDA, donc un avocat. On a besoin d'un avocat pour ce type de procédure. On continue notre parcours. La personne, elle attend la réponse de la Commission nationale du droit d'asile. Elle a un refus, évidemment, hein, faut pas rêver non plus. Je connais pas exactement les chiffres. Je crois qu'ils sont à peu près aussi importants que l'OFPRA. Mais enfin bon, il y a quand même assez peu de chances d'obtenir l'asile, bien que venant de pays comme le Congo, Kinshasa. Qui est ton cas, toi, hein, t'en parleras tout à l'heure. Donc, elle a de nouveau un refus, ça veut dire qu'elle va solliciter de nouveau un avocat, puisque forcément, enfin, il y a la possibilité de faire un recours après, derrière, à la cour d'appel. C'est pas systématiquement le cas, mais un certain nombre de sans-papiers, en tout cas, y tiennent, et donc sollicitent de nouveau un avocat. On continue notre parcours. La personne, elle attend toujours sa réponse à la cour d'appel, même si ça ne changera pas grand-chose. Et entre-temps, forcément, elle essaye aussi de régulariser sa situation autrement. Puisque là, à partir de ce moment-là, par contre, elle est en refus. Elle est en situation totalement irrégulière. Oui.
Si je peux me permettre, alors j'interviens dans ce cadre-là. C'est qu'après la CNDA, il n'y a pas de possibilité d'appel.
Il y a la cour d'appel ?
Non, non, non. Il y a éventuellement le Conseil d'État si on conteste certaines questions juridiques, mais en réalité, c'est extrêmement fermé. On peut le conseiller, mais en réalité, il y a très peu de chances de succès devant le Conseil d'État.
La CNDA,
il faut le considérer vraiment comme la dernière possibilité en matière d'asile, sauf à redéposer une nouvelle demande d'asile.
Voilà, ce qui est le cas dans la plupart des situations, mais certains demandeurs d'asile, certains étrangers tiennent quand même à faire le recours effectivement à la...
Oui, tout à fait.
Donc ça arrive. Et refus d'asile, pour un certain nombre, ça leur paraît quand même important de faire valoir les éléments qui les ont amenés à venir en France. C'est quand même des éléments qui, pour la plupart des cas, en tout cas nous, dans l'analyse qu'on fait des récits des personnes, relèvent de l'asile, donc refont une demande d'asile et refont ce qu'on appelle un réexamen d'asile. Qui dit réexamen d'asile, dit refus de réexamen, donc avocat. Et on continue. Ils ont de nouveau un refus sur réexamen. C'est assorti d'un refus de séjour, ce que j'expliquais au départ, de la préfecture. Donc, de nouveau, on resollicite un avocat. On continue. La personne, elle a un refus d'asile, un refus de la CNDA, un refus de réexamen, un refus de recours au réexamen. Elle introduit une demande par un autre biais. Pour un certain nombre d'entre eux, parce que tout ce parcours, ça atteint, je dirais psychologiquement, ça atteint aussi dans la chair. Pour un certain nombre, ils sont atteints de pathologies, soit relevant de la psychiatrie ou pas, d'ailleurs, ou de pathologies médicales autres. Donc, ils essayent de faire valoir ce qu'on appelle les demandes d'étrangers malades. Ou alors ils essayent de se régulariser par le biais du travail. Pendant tout ce parcours-là, pour la plupart, ils ont eu à un moment donné un droit au travail. Et donc c'est extrêmement fréquent en fait que pendant leur demande d'asile, en fait, ils trouvent du travail assez pas facilement, mais en tout cas, c'est des gens suffisamment motivés pour en trouver. Donc du coup, ils essayent de se régulariser par le biais, donc je vous disais, ou étranger malade, ou alors par le biais du statut salarié. Et de nouveau, ils ont un refus. Pour la plupart, pour un certain nombre en tout cas. Et donc, du coup, ils resollicitent un avocat. Et puis, je crois que... Ah oui, puis entre-temps, ce que j'ai quand même oublié, c'est qu'on doit être à 7-8 procédures, là, je crois, dans ce que je viens de dire là. Et c'est vraiment un parcours type. Hein. C'est-à-dire que la plupart des sans-papiers vivent ce que je suis en train d'expliquer là. Entre-temps, ils se sont fait arrêter par... tout à l'heure, donc le camarade de sans-papiers en parlera. Se font arrêter donc, par la police de l'air et des frontières et se retrouvent en garde à vue. Donc, de nouveau, on sollicite un avocat. Et dans le pire des scénarios, se retrouve en centre de rétention, de nouveau dans une nouvelle procédure, donc un nouvel avocat. En sachant que dans tout ce que je viens d'expliquer là, c'est jamais le même avocat. Donc rien que cette réalité-là fait que ça devient quelque chose d'assez complexe pour la personne, d'où l'intérêt d'avoir quand même des interlocuteurs à l'écoute et à peu près fiables, et puis des collectifs de soutien dans toutes ces démarches. Donc voilà, je ne sais pas après si je...
Là, on va faire une petite pause musicale. Et après, ouais. On aura notre ami qui est un ex sans papier, qui donnera son témoignage. Là, on fait une petite pause.
Alors, c'est ton morceau, Malika, si tu veux le présenter.
Ah, c'est le... Ah, ouais. Donc, on va écouter en fait un morceau de Baziz. Baziz, qui est un chanteur algérien. Donc le morceau qu'on va écouter est tiré d'un album qui s'appelle Café de l'Indépendance. Vous allez tous reconnaître l'air de la chanson puisque c'est sur un air de Renaud. Dès que le vent soufflera, etc., etc. Et en fait, bon, j'ai choisi en fait ce chanteur parce que c'est un vrai contestataire, un vrai esprit libre, et que vous verrez, c'est plein d'ironie sa chanson et que c'est en lien complet avec la question des étrangers en France.
Allez, c'est parti.
جبل ما بين جبل فيهم بني صايا جبل ما بين جبل فيهم بني صايا عندي كنز مخباي عالم بيه المولايا عندي كنز
مخباي Il y a une petite erreur de chanson, on met la bonne, ça y est. Tu m'avais dit la 2 en même temps, hein. Tu m'avais dit la 2.
pas l'homme qui prend la merde, c'est la merde qui prend l'âme. Moi la merde elle m'a pris, je me souviens j'étais petit, j'ai trop qui m'a dit les bancs. Mon bruno c'est un peu zone, contre un petit caban, et bien pour l'hexagone. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la France est dégueulasse, les arabes vivent dedans.
Dès que le vent soufflera,
c'est la merde qui prend l'homme, elle ne prend pas la femme. Chinois, elle en a déjà assez. La mienne m'a bon au port, avec trois gosses dans les bras. Chouf, comment je m'en sors? Suis-moi, Mohamed, dis, tu verras. Puis lui, trois enfants, histoire de l'occuper. Toute la famille sera contente, il te foutra la paix. C'est pas l'homme qui prend la femme. Chez nous c'est la femme t'es couleur à slum. Moi la mienne elle m'a pris comme on prend un taxi. Elle m'a pris pour une course qui a duré toute la vie. Elle a ruiné toute ma bourse, hey ma maison aussi. C'est gros dégueulasse, n'a rien compris du tout. Fallait tirer la chasse et puis oublier tout. Dès que le pain décidera, dès que Sarko le voudra, c'est un béco. Moi la merde elle m'a pris, je me souviens j'étais petit, à force d'être dedans, je crois que je m'habitue, je perdrai ma raison, si demain je ne l'aurai plus, j'irai jusqu'à la chercher, cette merde qui me colle, mais pour ne pas vous le cacher, j'aimerais avoir chouillé de vol, dès que le pain décidera, dès que Sarko le voudra.
Alors maintenant, on va continuer un petit peu sur les bons conseils et quand est-ce qu'on a recours aux avocats. Donc, je te laisse la parole.
Je complète un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a posé un petit peu le cadre des différentes procédures dans lesquelles étaient inscrites les personnes étrangères sans papier. Et donc, en fait, on voulait préciser aussi un petit peu quand est-ce qu'on avait recours aux avocats. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a tout un tas de situations où le recours de l'avocat n'est pas utile. Il n'est pas indispensable, en tout cas. Et bon, Maître Cuche, vous n'hésitez pas à intervenir hein, dans ce que je vais dire là. Nous, il nous semble que ce qui est important, c'est que les avocats puissent être présents au moment où il y a un contentieux. Un contentieux, ça veut dire qu'il y a un refus de l'administration. Que l'administration soit la préfecture ou que ce soit, je disais tout à l'heure, l'OFPRA, l'Office français des réfugiés apatrides, ou la commission de recours. Parce que nous, il nous a semblé, on a été témoins en fait, de situations où les personnes avaient recours aux avocats, notamment pour faire une première demande, une demande d'asile ou introduire une demande de séjour, c'est-à-dire demander sa première carte de séjour. Or, et c'est pour ça aussi qu'on est présent aujourd'hui, il nous semble qu'il y a un certain nombre de collectifs, enfin un certain nombre à Saint-Étienne, c'est vite vu, il y a un collectif qui existe. On a tous été amenés à manipuler quand même le droit des étrangers depuis un certain nombre d'années, donc a priori, on le connaît. On connaît en tout cas les grandes règles d'accès à une carte de séjour. Et on se dit que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. C'est aussi parfois, malheureusement, on y reviendra tout à l'heure, une perte d'argent de solliciter un avocat à ce moment-là. Nous, dans le cadre de l'introduction d'une demande, on est là pour évaluer avec la personne les chances, c'est aussi peut-être ce qui fera la différence avec certains avocats, les chances d'obtention ou pas d'une carte de séjour. C'est-à-dire, et surtout, éviter que la personne fasse une demande qui se retourne contre elle, puisque ça peut se transformer aussi par une expulsion, par une obligation à tel territoire, et par une expulsion. Ça veut dire que ça ne sert à rien, à notre avis, à ce moment-là de leur parcours, c'est-à-dire quand ils demandent l'asile, encore une fois, et quand ils demandent une première carte de séjour, de solliciter un avocat. Et je trouve presque pas correct de la part des avocats, puisque ça a été le cas. Je vais tout de suite donner un exemple un peu polémique, mais ça fera réagir, d'une situation à laquelle on était confrontés, d'une personne, une femme algérienne, je me souviens bien, qui faisait des ménages, donc qui était dans un état physique, c'était quand même visible quoi, qu'elle n'était pas bien et physiquement et psychologiquement, qui a fait une première demande avec l'aide d'un avocat, qui a payé cette demande 1 800 euros. D'accord. Du coup, nous, on était, ça existe aussi, quoi. Et du coup, nous, on avait appelé l'avocat en question pour savoir ce qui avait justifié cette somme-là et pourquoi, de toute façon, il avait sollicité, pourquoi il lui avait pas plutôt conseillé d'aller voir justement des collectifs de soutien ou autre. Et en fait, nous, il nous avait justifié la somme sur le fait que ça avait été facturé un peu bizarrement, sur le fait qu'il avait des coups de fil à passer, des courriers à faire à la préfecture et liens à faire. Bon, voilà. On a été témoin une fois de cette situation, donc je vais pas en faire une généralité non plus, mais l'idée c'est vraiment, il me semble qu'à ce stade de la procédure, le collectif sans papier, là je redonnerai en fin d'émission la manière dont on peut nous contacter, comment venir à la permanence d'accès au droit. Nous, à ce stade là de la procédure, on peut aider les personnes. Après, se pose la question de la personne quand elle a un refus par rapport à la préfecture, de ce qu'on appelle les recours gracieux. C'est-à-dire qu'on réinterpelle, en fait, la préfecture. Donc là, on en discutait tout à l'heure avec Maître Cuche. Nous, il nous semble que même à ce stade-là, il n'y a pas forcément besoin d'un avocat, mais vous disiez tout à l'heure peut-être que ça peut permettre d'appuyer un peu plus la demande.
Alors, je vais répondre enfin, à ce qui a été dit, parce que il est bien évident que, première chose, un avocat qui intervient en matière de droit d'étranger, il le fait parce que, par militantisme. Il le fait parce qu'il pense que c'est important d'intervenir dans ce contentieux-là. À la différence d'autres contentieux, effectivement, où un avocat peut intervenir d'un point de vue plus professionnel sans qu'il y ait cette notion de militantisme. Mais il n'en reste pas moins qu'un avocat, il s'agit de son travail, et que l'avocat n'est payé par l'aide juridictionnelle que pour les procédures. C'est-à-dire que si l'avocat intervient en dehors de toute procédure devant un tribunal, il demandera nécessairement à la personne qu'il va assister des honoraires. Alors, bien évidemment, surtout en matière de droit d'étranger, on est en présence de personnes qui ont souvent des petites ressources. On doit nécessairement, et ça, je pense que ça reste...
C'est même des personnes qui sont totalement sans ressources, si tu peux me permettre.
Sinon... Ça reste évident. Mmh. On doit avoir des honoraires qui sont mesurés. Mmh. Et puis aussi, parce que ça existe aussi, même si c'est marginal, à vrai dire, il arrive que les avocats ne fassent pas payer des personnes qui n'ont absolument aucune ressource, aucune aide d'association ou de famille ou autre. C'est évident. Alors, on peut aussi, par ailleurs, et ce n'est pas complètement faux, selon moi, on peut aussi, par ailleurs, estimer que l'avocat n'est pas nécessaire dans cette phase précontentieuse, qu'il y a des associations, effectivement, qui connaissent très bien les règles juridiques, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus en contact, peut-être, avec les institutions, et qui peuvent parfaitement faire un travail qui est aussi très efficace. Voilà. Alors après...
Je ne sais pas si je peux me permettre, c'est aussi un stade où on y reviendra peut-être plus tard. Cette première demande, c'est quand même, la personne sans papier, je sais qu'il y en a un certain nombre là qui l'écoutent, ils font partie du collectif et autres, et c'est important que ça puisse être dit clairement. La première demande qu'on va poser à la préfecture, c'est celle qui va quand même vous poursuivre jusqu'à la fin. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans après, puisque c'est aussi le cas de nombreux sans papier. Tout ce qui va être déclaré à la préfecture et qui va être donné à ce moment-là, donc dans l'introduction de la demande, que ce soit l'asile ou une première demande de carte de séjour, est donc dans le dossier de la personne, ça veut dire que ça va les poursuivre. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous, quand on introduit cette première demande, on donne aussi un certain nombre de conseils qui sont des conseils qui sont un peu en parallèle de l'application de la loi. Il y a, vous allez peut-être avoir la possibilité d'avoir telle ou telle carte de séjour, mais aussi, pour être très clair, j'avance un petit peu dans ce qu'on va dire dans la suite, mais on le redira, je pense, plusieurs fois parce que c'est important. Il y a des informations type l'adresse, type la nationalité, type l'identité, je le dis aussi clairement, qui peuvent se retourner dans contre la personne à un moment donné quand elle a un refus et qu'il s'agira de l'expulser. Donc ça veut dire, mais c'est des choses qu'on discute, c'est pas une règle, je suis pas en train de dire que systématiquement on va avec des fausses identités ou des fausses adresses ou je sais pas quoi, mais qu'il y a un certain nombre de stratégies à adopter à ce moment-là. Donc c'est extrêmement important de pas avoir uniquement un regard juridique, technique en tout cas du dossier, mais d'avoir un regard aussi sur les conséquences humaines du dépôt de ce dossier. C'est vrai qu'il me semble que le simple recours à un avocat ne suffit pas, ou en tout cas à ce stade-là, c'est à mon avis pas forcément indispensable, quoi.
Moi, j'avais une question, en fait. Est-ce que ça veut dire que toutes les démarches qui sont entreprises quand c'est pas le cadre d'un refus, ça veut dire que, par exemple, l'aide juridictionnelle ne marche pas ou... C'est ça que vous avez dit tout à l'heure
L'aide juridictionnelle ne fonctionne. Enfin, c'est-à-dire qu'un avocat peut être payé par l'État uniquement lorsqu'un tribunal est saisi. Lorsqu'un tribunal n'est pas saisi, c'est-à-dire lors d'un recours gracieux, lors d'une demande quelconque, l'État ne va rien verser à l'avocat. Donc, l'avocat, s'il veut rentrer dans ses frais aussi, parce que c'est une profession libérale, va demander, mais alors tout en étant mesuré, parce que 1800 euros, c'est complètement astronomique. C'est bien au-delà de ce qui peut être demandé de manière honnête par un avocat, me semble-t-il.
Mais on est bien d'accord. Et pour finir l'histoire, on a interpellé le bâtonnier qui a réagi et qui, bon, à mon avis, l'avocat en question ne le fera pas. Bon, après, là, j'ai donné un exemple. Encore une fois, je dis que ce n'est pas systématique, mais on y reviendra tout à l'heure sur la question des frais des avocats et justement le fait qu'elle soit une profession libérale, parce que le problème, il est peut-être un petit peu là aussi. Mais bon, on va peut-être laisser la parole.
Là, il serait temps, oui, peut-être de laisser la parole aux camarades. Donc, tu es un ancien sans-papiers et on voulait un petit peu avoir ton vécu sur ton arrivée en France et comment ça s'est passé tout au long de ces longues années, parce que ça fait déjà pas mal de temps que tu es ici. Et donc, toi, tu viens d'Afrique et on voulait un petit peu avoir ton sentiment et puis ton parcours. Voilà.
Bah, merci d'avoir donné la parole. Ce que vous venez de dire, bah, je suis ressortissant congolais et demandeur d'asile. Donc, je suis arrivé en 2003, comme demandeur d'asile, et j'avais introduit mon dossier au niveau de l'OFRA. Malheureusement, qui était rejeté 2 mois après. Du coup, j'avais formulé mon recours au niveau de la CRR. J'ai formulé le